La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans l'émission La Torah expliquée. Pendant un quart d'heure, Guy Attia, directeur du Berger d'Israël, répond aux questions que Benjamin Wagner, journaliste protestant, se pose sur la Torah.
Guy Attia, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes donc à nouveau réunis pour un cinquième épisode de cette émission La Torah expliquée, dans laquelle on pose un regard juif plutôt qu'un regard chrétien sur les textes de la Torah. On va s'intéresser aujourd'hui à un texte dans la Genèse, au verset 14, au chapitre 14, les versets 17 et 20.
Oui, alors on va peut-être le lire dans un premier temps. Donc chapitre 14, verset 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout.
Alors, on est en présence d'un texte dont on peut se demander qu'est-ce qu'il a à faire avec le Messie et en quoi est-ce que ce personnage, en quoi est-ce que ce texte peut évoquer le Messie à venir.
Oui, alors en effet, ce texte semble a priori anecdotique dans l'ensemble du texte de la Genèse. Abraham revient d'une guerre dont les conditions de départ lui étaient hautement défavorables, et il ressort malgré tout vainqueur, et sur le retour, il fait donc cette rencontre avec ce personnage mystérieux qui est Melchisédek. Et je ne m'étendrai pas là-dessus sur la nature de cette guerre menée par le patriarche, qui en elle-même pourrait susciter pas mal de questions. Mais sitôt le combat terminé, Abraham et les rois victorieux se rencontrent, histoire sans doute peut-être de faire le bilan, et comme l'évoquera d'ailleurs la suite du récit, tout simplement de partager le butin pris ou récupéré sur les ennemis. Et dans notre récit, seuls les rois vaincus qui venaient de Mésopotamie sont désignés par leur nom. Et peut-être s'agit-il là de rois connus d'Abraham, à l'époque où il habitait encore à Ur en Mésopotamie. Et certains commentateurs désigne même l'un de ces rois comme Nimrod, le roi cruel qui, selon la tradition juive, avait fait mourir Haran, le frère d'Abraham. Et par ailleurs, le roi de Sodome, dont on ne connaît pas le nom ici dans notre texte, a, semble-t-il, lui réussi à se sortir des puits de bitume dans lesquels il était tombé, au verset 10, un petit peu auparavant. Bref, tout cela va se passer dans la vallée de Chavé, qui signifie littéralement quelque chose de rase ou de plat, comme une plaine, par exemple. Et le même mot peut également désigner, dans un sens figuré, le lieu d'un accord où tout est mis à plat, comme pour un traité, par exemple. Et ici, visiblement, le rédacteur pense utile de préciser qu'il s'agit aussi de la vallée du roi. Mais, en fait, sans préciser de quel roi il s'agit. Et le texte ne le précise pas. À moins qu'il ne faille relier peut-être cette désignation au personnage justement central dans notre texte, ce personnage de Melchisédek qui nous occupe, auquel cas cette désignation est alors faite probablement a posteriori. Curieusement, le personnage central de ce chapitre n'a rien à voir avec la guerre qui vient de se dérouler et il descend de Jérusalem pour aller à la rencontre d'Abraham.
Alors justement, est-ce que ce n'est pas un petit peu improbable de voir un roi, a priori, qui n'a rien à voir avec cette guerre, qui est une affaire locale, donc ce roi fait des dizaines de kilomètres pour venir au devant d'Abraham avec du pain et du vin?
Eh bien, c'est justement que le récit un peu dépasse la simple anecdote pour évoquer quelque chose de plus grand, de prophétique à mon sens. Parce que tout ou presque, d'ailleurs, dans le personnage de Melchisédek, se heurte à la logique de cette époque. En effet, premièrement, on connaît son nom. Melchisédek signifie « roi de justice »,« Meler Tzedek », et il est « roi de Salem ». Et à ce titre, on peut penser qu'Abraham a pu sans doute le rencontrer auparavant, puisque Jérusalem ou Salem n'était pas très loin de là où séjournait Abraham. La tradition juive désigne même ce personnage comme étant Sem, l'un des fils de Noé. Mais rien ne permet de corroborer cette affirmation dans notre texte, et notamment les deux autres textes qui en parlent dans la Bible, qui sont dans les psaumes et dans l'Épître aux Hébreux. Deuxièmement, c'est non seulement on connaît son nom, mais deuxièmement on connaît aussi qu'il est roi de Salem, autrement dit de Jérusalem. Et à cette époque, Jérusalem n'était encore qu'une toute petite bourgade, sans doute occupée par quelques Cananéens. Rien de significatif en tout cas, mais le nom de ce roi est visiblement bien connu dans les alentours. Bizarrement, on ne connaît pas ce roi ou son influence en dehors de ce passage du chapitre 14 dans ce récit de l'Antiquité. Et puis troisièmement, Melchisédek est aussi sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut. Alors on croyait évidemment qu'Abraham était le seul personnage de la région dispensateur de la foi dans le Dieu unique. En fait, eh bien, il n'est peut-être pas vraiment tout seul. Et on peut se demander comment il se fait qu'il ne soit pas évoqué des rencontres plus particulières entre Abraham et ce personnage dont il est fait mention ici. D'autant qu'ils sont donc, comme je disais tout à l'heure, quasiment voisins. Là, le texte reste muet là-dessus. Et puis pour les Juifs, il y a par ailleurs une autre incongruité. Selon la loi, on ne pouvait pas cumuler et la fonction royale et la fonction sacerdotale. Or ici, Melchisédek est à la fois roi et sacrificateur en même temps. Et qui plus est à Jérusalem. Alors nulle part dans les Écritures, on ne parlera d'un autre roi remplissant les mêmes offices simultanément, sauf alors à évoquer Dieu lui-même, qui est à la fois roi et sacrificateur. Cela fait d'ailleurs beaucoup d'éléments de conjoncture assez inédits pour un seul et même personnage, comme il est dit dans notre texte. Si on y ajoute en plus qu'il vient au devant d'Abraham avec du pain et du vin, ça fait évidemment beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Et contrairement à ce qu'affirme Rashi, donc un grand commentateur juif du Moyen-Âge, le pain et le vin ici mentionnés ne sont pas juste une manière de soulager la fatigue ou la soif du patriarche. Il y a ici davantage.
Alors ça fait beaucoup de questions pour lesquelles il y a finalement peu de réponses. Qu'est-ce que veut nous communiquer ce petit récit ? Est-ce qu'on parle ailleurs dans les Écritures de ce personnage de Melchisédek ?
Alors en fait, si l'histoire profane n'a pas retenu grand-chose de ce roi à Salem, les Israélites et le psalmiste David en l'occurrence en parlent comme d'un souverain sacrificateur régissant une alliance messianique éternelle. En effet, nous lisons dans le psaume 110 « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Et puis ici, plus particulièrement ici au verset 4, « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Or ici, donc, dans le psaume 110, qui est de l'avis de tous les commentateurs, aussi bien juifs que chrétiens d'ailleurs, eh bien, ce psaume est un psaume qui désigne le Messie, un psaume messianique. Yeshua lui-même questionnera d'ailleurs ses contemporains à partir de ces quelques versets, et des premiers versets en particulier, qui peuvent évoquer, bien sûr, la nature du Messie, dans Matthieu 22, verset 41. Une question que Yeshua posera d'ailleurs à ses contemporains sans que ces derniers ne puissent véritablement répondre à sa question. Et David évoque ici le Messie assis à la droite de Dieu, ce qui en clair est un titre d'égalité avec Dieu, même si peu en fait l'admettent réellement. Il n'y a pas en la circonstance de différents niveaux de divinité du Messie, ou de divinité dans ce texte. D'ailleurs, les Juifs au 1er siècle sont unanimes pour désigner le Messie comme de nature éternelle. Or, Dieu seul est éternel, comme il est dit dans Jean 12, verset 34, la foule lui répondit, à Jésus donc, à Yeshua, « Nous avons appris par la loi que le Messie demeure éternellement. » Ils font peut-être une allusion à ce texte du psalmiste, mais celui-ci évoque le Messie comme le roi désigné, régnant depuis Jérusalem et le souverain sacrificateur en même temps, selon l'ordre, cet ordre, celui de Melchisédek. Une double caractéristique que l'on n'a connue qu'avec Melchisédek. Alors concrètement, on ne connaîtra par la suite que la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, celui du Lévitique, celui que l'on connaît habituellement. Un ordre qui, selon d'ailleurs les sages du Talmud, n'avait pas vocation à être éternel, mais à conduire justement jusqu'à l'ère messianique. Et cet ordre, selon Aaron, a du reste pris fin avec la destruction du temple en 70. Et l'ordre, selon Melchisédek, en revanche, se distingue par, d'un côté, son antériorité et, en même temps, son caractère éternel. Une caractéristique qui le place, de ce fait, au-dessus de l'ordre d'Aaron.
Qu'est-ce qu'on peut apporter comme conclusion à cette considération et à l'évocation de ce personnage ?
Alors sans doute qu'au-delà des apparences, le personnage de Melchisédek est une figure du Messie à venir. Le Messie est roi et en même temps sacrificateur, deux fonctions inconciliables sur la terre, mais que le Messie éternel incarne parfaitement. Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux parle de lui de manière en fait assez singulière en reliant cette évocation du psaume que nous avons lu à l'instant avec Yeshua dans Hébreux chapitre 5, verset 4, nous lisons « Or, personne ne s'attribue à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu comme Aaron lui-même. De même, le Messie ne s'est pas octroyé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, grand sacrificateur. Il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » C'est une allusion au psaume 2. « Tout comme il est dit encore ailleurs, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc la référence au psaume 110 que nous avons lu avant. « Au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. » Alors voilà un texte un petit peu peut-être complexe comme cela, mais qui nous rappelle de façon très importante par l'auteur de la lettre aux Hébreux que Yeshua est effectivement le Messie qui est à la fois roi et sacrificateur pour toujours, selon cet ordre dont la caractéristique principale est celle d'être éternel. Un ordre particulier qui, lui, ne s'arrête pas et nous sommes, je dirais, interpellés par cette supériorité de cet ordre, de cette sacrificature. Et nous pouvons nous réjouir simplement de ce que Dieu avait un plan particulier pour sauver l'humanité. Et ici, à travers cette image si particulière que ce roi de Salem, Melchisédek. Voilà, si on peut en apprendre davantage encore sur ce personnage, on le fera une autre fois.
Merci Guy et merci Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet lebergerdisraël.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.